Si, ça marche. C'est pas allumé, mais ça fait du son. Du coup, j'ai plus grand chose à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà que j'avais promis de que j'avais prévu de vous dire qui ont déjà été dites. Alors, c'est vrai que sans vouloir dénoter dans tout ce qui a été dit, nous avons un rôle, et nous en particulier, juges du siège, parce que autant les avocats des parties civiles, autant l'avocat général au procès d'assises ont un rôle de partie, de protection éventuellement de la victime. Autant nous, les juges du siège, nous avons un devoir de juger les accusés de manière impartiale et de respecter ce qu'on appelle les droits de la défense. Ça existe aussi. Et nous devons être impartiaux. Vous le savez, ça devrait être écrit quelque part dans cette salle. C'est le rôle des juges du siège. Et donc, c'est vrai que nous n'avons pas le devoir de protéger les victimes. J'entendais ce matin, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elles disent, avec nos policières qui nous indiquaient que, ou gendarmettes, mélanistes, je ne sais plus, qui nous disaient que le rôle de tout le monde ici, c'est l'intérêt des victimes. Oui, je vous dirais que oui. Après, mais nous, dans le cadre du procès, c'est vrai que nous sommes tenus par ce devoir d'impartialité. Nous ne sommes pas au service des victimes. Nous ne sommes pas sans ignorer ça. Ça fait partie des intérêts que nous devons prendre en compte dans notre décision. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, c'est sûr. Et nous avons tous, je dirais bien tous, un devoir de juger à charge et à décharge, de prendre les éléments qui vont dans un sens, qui vont dans un autre, et de la manière la plus neutre possible. Je le dis pour des policiers, je le dis pour l'avocat général, qui est un magistrat en France, c'est pas partout le cas, mais ici c'est comme ça. Je le dis pour pour les avocats, même si après, ils vont, eux, représenter des intérêts particuliers avec un mandat qui leur est donné par leurs clients, qu'ils soient accusés, qu'ils soient victimes. Nous sommes au milieu de tout ça et nous devons veiller à respecter les droits de chacun dans le cadre d'un procès contradictoire, comme la loi le dit. Donc en matière criminelle, puisque je vais essayer de me limiter à mon rôle de président d'assises, l'instruction donc est obligatoire et donc la procédure a une durée, vous l'avez compris, qui n'est pas tellement compressible, qui est longue, qui est souvent trop longue. Mon collègue vous le disait, une affaire criminelle avec détenus, c'est minimum 2 ans et demi entre le jour de la plainte, on va dire, et le jour du jugement, minimum. Et là, c'est vraiment très rapide, et c'est plutôt 3 ans en général. Et une affaire où il n'y a pas de détenu, où l'accusé n'est pas détenu, ça peut être jugé 5, 6, 7 ans, 8 ans après... J'ai bientôt jugé une affaire qui a été commise dans les années 90. Bon. Donc, c'est vrai que... Alors ça, c'est effectivement excessif. Je parle des détenus des accusés libres. Mais pour les accusés détenus, bon, 3 ans, je dirais que c'est un minimum. Mais ça peut avoir son utilité. Pourquoi ? Parce que vous faites une évaluation, comme... plusieurs intervenants l'ont dit, à chaud, en début de procédure, à l'instant T. Mais après, les choses évoluent, et pour les accusés, et pour les victimes aussi. Et donc, c'est intéressant de mesurer comment les choses peuvent évoluer. Et dans ce cadre, dans ces conditions-là, si vous voulez, votre rapport... de passage à l'UMJ. Alors s'il y a un rapport, parce que j'ai découvert des choses formidables, Alors, il y a des UMJ dans lesquels la psychologue rédige un rapport de 5 pages. Il y a des UMJ dans lesquels, ici à Bordeaux, en général, c'est plutôt une demi-page. C'est quelque chose d'assez, d'assez succinct. Puis il y a des UMJ, on me disait tout à l'heure, à Caen ou peu importe où c'est, où on ne rédige pas de rapport et où on fait part de ses conclusions au médecin légiste qui, lui, rédigera un rapport. Bon, donc tout ça, c'est très variable pour nous et l'utilisation fortiori qu'on peut en faire aussi, si vous voulez. Alors, à Bordeaux, nous sommes dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a un rapport succinct qui ne donne pas lieu en général à la citation de la psychologue, je pense à Céline Bob, qui fait ça ici, que je remercie de m'avoir invité, avec laquelle nous faisons par ailleurs des activités pour débriefer psychologiquement les jurés. Enfin, c'est surtout elle qui s'en occupe, mais c'est moi qui les lui adresse, c'est autre chose encore. Mais enfin, c'est pas sans lien. Bien que, je le répète, les jurés ne sont pas des victimes quand même. Et ce sont des juges, eux aussi. Et donc, ce rapport donne lieu en général à un compte-rendu par le médecin légiste, puisque c'est lui qui est cité. Lui, il est cité. Je pense notamment aux affaires d'abus sexuels. Et donc, le médecin légiste vient rapporter ses constatations somatiques, notamment gynécologiques. Et puis, il vient souvent rapporter également les constatations de la psychologue du service. C'est assez rare qu'on fasse citer la psychologue pour aux assises. Bon, c'est vrai que ce serait peut-être un peu long. Ce serait peut-être. Je ne sais pas si elle aurait suffisamment pour rendre compte d'un paragraphe de rapport qui a été fait 3 ans auparavant. Je dis 3 ans, ça peut être 7. Donc, avec la perte d'informations, est-ce que je me souviens de ce que j'en ai vu, j'en vois tous les jours. Est-ce que je vais me souvenir pour retranscrire ça aux assises, répondre à des questions, parce que c'est aussi ça. Je suppose que certains d'entre vous sont experts, psychologues ou psychiatres par ailleurs, ou médecins légistes, et qu'ils savent que, aux assises, les parties posent des questions, l'avocat général, l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile. Donc, à Bordeaux, c'est comme ça que ça se passe. J'imagine que dans d'autres juridictions, les psychologues des UMJ peuvent être cités devant les assises. Bon, ça nous donne un instant T au départ de la situation de la victime. Voilà, est-ce qu'il y a un stress aigu ? Est-ce qu'il y a des potentialités de stress post-traumatique ultérieur. Et là, effectivement, le juge d'instruction va ordonner une expertise psychologique de la victime, faite par un expert, et qui mesure effectivement l'involution. Et c'est intéressant de mettre les choses en perspective. Et donc de savoir d'où on part finalement, hein, parce que, alors après la question peut se poser de savoir si avant le jugement, le président de la cour d'assises, qui en a le droit bien sûr, pourrait ordonner une nouvelle expertise psychologique de la victime à peu de temps du procès. C'est une question, des fois je le fais, ça peut avoir son utilité, mais évidemment c'est difficile de multiplier les expertises, en faire une au début, une au milieu, une à la fin, en sachant que nous n'avons pas beaucoup d'experts, qu'ils sont tous débordés, enfin. Donc, ça nous sert à ça. L'audience, d'une manière générale, vise à apprécier les personnalités des protagonistes, et pas seulement de la victime, d'ailleurs. On passe une bonne demi-journée, en général, sur la personnalité de l'accusé, déjà, avec une enquête de personnalité, avec des témoins de personnalité, un interrogatoire de personnalité, etc. On fait aussi, moi j'ai l'habitude de faire une demi-journée également pour la victime. Donc la partie civile, on l'appelle comme ça l'audience. En général, à la cour d'assises, ils sont constitués partie civile, ils ont un avocat, et bon, sauf exception. Et là pareil, audition de la partie civile, pas facile, ni pour elle ni pour moi, hein. Parce que poser des questions à quelqu'un qui a un traumatisme, qui est encore très vivace, qui a été relancé par la convocation aux assises, parce que l'arrivée du procès n'est pas sans conséquence. Il y a des reviviscences qui reviennent, même si le temps avait pu, ou la résilience avait pu faire que les choses s'atténuent un petit peu. Au moment du procès, c'est toujours un moment difficile à passer. Donc audition de la victime, audition de ses proches, les parents, si c'est une mineure ou si c'est une ex-mineure, parce que c'est pareil, souvent les victimes sont mineures. Mais quand elles arrivent aux assises, elles ne le sont plus. Bon, sans compter celles qui se sont fait violer à l'âge de 23, 24 ou plus par leur beau-père, ce qui arrive aussi. Audition de médecin légiste, donc, qui a examiné la victime, audition de l'expert psychologue qui a examiné la victime, et votre rapport, votre intervention est mise en perspective, justement. Moi, j'essaye de faire les choses dans cet ordre-là, de façon à ce qu'on puisse voir comment, dans quel état est la victime, nous-mêmes l'entendre, dans quel état ses proches en parlent, enfin, comment les proches parlent de son état, et comment les experts... au cours de la procédure, en début pour les légistes. Alors après, il y a aussi des expertises médicales ultérieures, parfois. Bon, mais ça, en général, c'est plutôt quand il y a des problèmes somatiques. Hein. S'il n'y a que des problèmes psychologiques, il y a une expertise psychologique, et puis c'est tout, malheureusement. Et puis après, on poursuit l'enquête avec l'audition des enquêteurs de police l'audition de l'accusé. Donc, tout le procès vise à mettre en perspective, à mettre en confrontation, si je puis dire, enfin, en interaction, la personnalité de l'accusé, la personnalité de la victime. Comment ces deux-là se sont retrouvés à un moment donné? Comment, alors ça peut être totalement fortuit, bien évidemment, il y a des cas, mais il y a beaucoup de cas, malheureusement, vous le savez, où les abus sexuels se passent entre personnes qui se connaissent. Et donc l'histoire de chacun, l'histoire de leur relation, mon beau-père, etc., vous l'avez élevé depuis quel âge, etc., etc., toute cette histoire-là nous éclaire pour apprécier comment s'est nouée la relation et comment les faits ont pu, le cas échéant, avoir lieu. Est-ce qu'ils sont effectivement, et en fonction de la personnalité de chacun aussi, est-ce que... il y a une notion de vulnérabilité chez la victime. C'est pas rare. Vous l'avez remarqué. Je dis pas que c'est exprès, mais il y a des victimes qui sont plus vulnérables. Enfin, il y a souvent, les victimes ont souvent une part de vulnérabilité. On va dire ça comme ça. Je parle pas de l'arriéré profonde qui a 3 ans d'âge mental et qui, à chaque fois qu'elle a une relation sexuelle, se retrouve à la cour d'assises. J'en ai eu une qui est venue plusieurs fois. Bon. Donc la personnalité de chacun peut avoir des conséquences sur la qualification, sur la constitution des faits, parce que on va toujours se poser la question du discernement de l'accusé, mais aussi de la victime. Le dernier procès que j'ai eu, c'était une victime qui avait 11 ans et qui a eu des relations sexuelles consenties, entre guillemets, avec un homme de 42 ans. Voilà. Alors lui, il disait, ah, mais moi, j'ai 15 ans dans ma tête, ce qui n'était pas totalement faux.
C'est un peu facile.
Elle disait, je veux être avec lui, etc., etc. Elle tombait enceinte, enfin, je passe. Et, mais elle disait, ah oui, c'est vrai que... Vous voyez, sur le coup, quand vous la voyez à l'UMJ, au COVA, en l'occurrence, elle dit... Moi, c'est l'homme de ma vie, je suis enceinte de lui, je veux garder le bébé, je veux vivre avec lui et je veux surtout pas qu'il aille en prison. Arrêtez de nous casser les couilles, il avait dit. Bon, je la cite. Puis après, avec le temps, elle a été placée, foyer maternel, elle avait 13 ans, donc au moment où elle était enceinte, au moment où elle a accouché, et foyer maternel, etc. Et elle a réfléchi, elle a pensé que finalement, elle s'était quand même un petit peu fait avoir dans cette affaire. Et à l'arrivée des courses, il a été condamné pour viol à 11 ans de réclusion criminelle. Bon. Okay. Au moment de l'appréciation de la peine, puisque j'en parle, là aussi, ce sont des choses qui sont prises en compte. Monsieur le procureur vous le disait ce matin, les intérêts de la victime doivent faire partie des éléments qui vont nous déterminer à fixer la peine. Le régime de la peine également. Le régime de la peine est fixé en fonction de, des circonstances de l'infraction. Alors les circonstances de l'infraction, ben, ce n'est pas seulement les faits en eux-mêmes, c'est la personnalité de chacun, c'est la façon dont ils ont pu se rencontrer, c'est la façon dont les faits ont pu avoir lieu. Et ça, ça détermine la peine. J'en arrive à la fin. Et donc, cela est pris en compte dans, dans tout un tas d'infractions. Alors évidemment, nous avons les infractions sexuelles, mais pas que. À la cour d'assises, on a aussi des extorsions, des enlèvements, des vols avec armes, des harcèlements, des corruptions de mineurs, souvent, qui sont en délit connexe. Et c'est vrai que là, on se trouve dans des préjudices qui sont proprement psychologiques. Il n'y a pas forcément d'atteinte physiologique et je dirais même qu'il n'y a pas forcément de passage au COVA ou à l'UMJ. Parce que la victime d'un braquage, s'il n'y a pas eu de coup de feu tiré, s'il n'a pas été blessé, c'est pas forcément qu'elle va y aller. Elle aura son expertise psychologique, mais pas forcément de passage au COVA. Une victime d'enlèvement, c'est pas forcément non plus. Donc, et puis le dernier moment où on utilise votre travail, eh bien, c'est au moment de l'audience civile, quand il s'agit de fixer les dommages et intérêts. Voilà, je vois que ça commence à parler, donc je me tais. Et je vous donne la parole pour vos questions.